France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Alors que la France connaît une instabilité gouvernementale sans précédent dans l'histoire de la Ve République, notre vie politique semble se heurter au même écueil depuis les dernières élections législatives, l'absence de majorité constituée dans notre Parlement, et donc l'impossibilité, pour les forces politiques en puissance, de pouvoir mettre en œuvre le moindre programme. Mais si l'absence de majorité est la cause immédiate du blocage actuel, elle peut aussi être perçue comme une occasion idéale pour poser à nouveau frais la question de l'essence même de la démocratie. Du fait que cette dernière est rythmée par des élections dont la visée est de représenter aussi adéquatement que possible les aspirations populaires, s'ensuit-il que le pouvoir doive nécessairement y revenir à la majorité. D'une part, la règle de majorité paraît intimement liée au refus des pouvoirs arbitraires. Dans des sociétés où l'unanimité est par principe impossible à atteindre, et sans doute indésirable, la notion de majorité a le mérite de fournir un critère clair permettant de légitimer les expressions de la souveraineté, si bien qu'elle paraît constituer un fondement incontournable de l'autorité démocratique. Mais quelle place offrir, sous son égide, aux minorités politiques ou sociales ? N'arrive-t-il pas que le principe de majorité entre en tension avec d'autres piliers élémentaires de la vie démocratique, voire qu'il soit mobilisé pour fragiliser ces derniers ? Réduire la volonté générale au seul pouvoir du plus grand nombre, n'est-ce pas reconduire le risque de liquider la promesse d'universalité que la démocratie porte aussi en elle ? La démocratie est-elle le règne de la majorité ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés des philosophes Céline Spector, Juliette Speranza et Pierre-Henri Tavoyot.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Céline Spector.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie politique à Sorbonne Université et auteur de Nos Démos, Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe aux éditions du Seuil. Bonjour Juliette Speranza.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en philosophie à l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Éducation Inclusive et auteur de Nous sommes tous des minorités qui vient tout juste de paraître aux éditions du Faubourg. Et bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maître de conférences à Sorbonne Université aussi, président du Collège de philosophie et auteur notamment de « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» aux éditions Odile Jacob. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir donc à la question de la définition de la démocratie à travers le concept de majorité et donc de minorité. Et évidemment, ce sont des concepts qui sont équivoques, qui sont ambigus. Je pense que ce sera tout l'objet de notre discussion, parce qu'ils ont plusieurs définitions possibles. Une des définitions, peut-être la plus immédiate, la plus évidente pour nos auditeurs à l'aune de l'actualité, c'est de constater qu'aujourd'hui, la vie politique française se retrouve complètement bloquée depuis les dernières élections législatives, avec des gouvernements qui apparaissent, qui sont fragilisés, qui sont mis en censure, qui sont renversés, avec un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a battu le record de l'éphémère en démissionnant au lendemain de la nomination de son gouvernement et en étant renommé par la suite. Tout ça pour la même raison, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Majorité entendue au sens quantitatif d'un parti qui est en position dominante au terme des élections. Pierre-Henri Tavoyot, est-ce que cette situation nous dit que la majorité est en fait nécessaire, vitale, pour l'avancée d'une démocratie représentative comme la nôtre ?
Oui, la majorité est nécessaire. Il y a deux cas de figure. C'est avoir une majorité claire par les élections, ça c'est une chose. Et puis après, si on n'a pas cette majorité claire, il faut trouver la majorité par une série de compromis, par une série de négociations. Alors ça, c'est pas la tradition française, parce que la Ve République s'est construite sur une espèce de logique évidente bipartisane, avec l'idée que le gouvernement allait une majorité non seulement relative, mais aussi absolue. C'est un peu cette idée-là. D'où la très grande difficulté aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de majorité, de voir les moyens dans la pratique politique d'en trouver une. Mais quoi qu'il arrive, avoir une majorité ou en trouver une, il faut de toute façon une majorité sans laquelle, effectivement, le gouvernement est impossible.
Céline Spector, il y a quand même un paradoxe dans cette situation, c'est que d'une part il y a un blocage, et de l'autre les élections législatives que nous avons, qui ont suivi la dissolution, c'était des élections où les Français se sont massivement mobilisés. On peut dire que le Parlement est représentatif de la France. Est-ce que ça signifie, que signifie à vos yeux ce décalage entre un Parlement qui représente en tout cas des élections où tout le monde s'est mobilisé, et une vie politique qui est complètement bloquée?
Alors, pour pouvoir répondre à votre question, je voudrais peut-être revenir un instant sur ce que signifie la règle de majorité et sur les raisons pour lesquelles la démocratie est fondée, pour une grande part, sur cette règle, et dire d'abord qu'il s'agit d'une règle de décision. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas délibérer indéfiniment. La règle de majorité s'applique aussi ailleurs qu'à la démocratie. Dans tout groupe social, elle a eu d'ailleurs dans l'Église chrétienne un rôle fondamental. Donc pourquoi est-ce que la démocratie a besoin de la règle de majorité? Il y a trois grandes explications possibles. Il y a une explication presque physique, mécanique, arithmétique, numérique. Tout simplement, on a besoin de savoir ce que veut le plus grand nombre pour pouvoir avancer. Et ça, c'est la vision de Locke au XVIIe siècle. Dans le second traité, il nous dit finalement, il faut qu'il y ait un corps politique à partir d'une égale liberté des individus. Et donc, il faut aller dans le sens, disons, de la plus grande force. Et c'est presque le vecteur des forces physiques qui permet au corps d'avancer et de lui donner sa plus grande volonté. Et puis, on a une seconde vision qui est celle de Rousseau, qui nous dit finalement, il y a deux définitions possibles de la majorité. Une, c'est qu'elle n'est pas naturelle, contrairement à ce que dit Locke, elle est conventionnelle, elle repose sur le contrat social. Et deuxièmement, elle nous dit qu'en fait, eh bien, celui qui est dans la minorité a toujours tort. C'est-à-dire qu'en fait, il ne veut pas vraiment le bien commun de l'État. Et donc, selon cette seconde conception, c'est pas seulement une conception numérique et pragmatique, mais c'est vraiment une conception qui est fondée sur l'idée de justice. C'est-à-dire que, bah, en fait, dans des situations où le peuple peut s'exprimer en étant suffisamment informé, en étant suffisamment motivé, s'il s'exprime dans de bonnes conditions, alors, eh bien, la voix de la majorité a raison. Et Rousseau nous dit, quand la vie contraire au mien l'emporte, ça ne prouve rien d'autre que je m'étais trompée. Donc voilà, on a aussi cette vision qui est à la fois fondée sur la justice et fondée sur la connaissance. C'est une vision qui est déjà un peu épistémique. Et la troisième grande justification de la règle de majorité, justement, elle vient de Condorcet. Dans le sillage de cette vision épistémique, il nous dit pas seulement la règle de majorité est la plus juste parce qu'on traite de manière égale chaque citoyen et qu'on lui accorde une égale importance, c'est quand même fondamental dans la démocratie, mais aussi parce qu'en fait, elle nous permet de prendre les meilleures décisions. C'est ça le côté épistémique, c'est-à-dire qu'en fait, la majorité, dans certaines conditions, là encore, il faut préciser lesquelles, peut, plutôt qu'un autocrate ou une oligarchie, avoir raison. Et donc, il vaut mieux finalement la règle de majorité que même une petite élite éclairée. Et c'est ça le grand apport du théorème du jury de Condorcet, qui justifie dans une large mesure la règle de majorité. C'est que, eh bien, si finalement on est dans des décisions, alors plutôt de type binaire, oui, non, bah, en fait, et si chacun a plus de la moitié de chance de dire la vérité, d'avoir une réponse correcte à la question posée, eh bien, dans ce cas, bah, dans une assemblée de certaine taille, eh bien, la majorité aura une meilleure, disons, approximation de la vérité qu'une minorité fût-elle éclairée. Et donc, c'est un grand argument pour la démocratie contre l'épistocratie. Alors, pour revenir à notre situation en deux mots, bah, évidemment, on est dans une situation de blocage depuis les dernières législatives. Moi, c'est vrai que quand j'avais entendu ce résultat en 2022, je me suis dit, effectivement, on est mal parti. Alors, l'Assemblée est plutôt plus représentative parce qu'elle déjoue l'effet majoritariste qu'on entend d'habitude lié à la Ve République, lié au scrutin majoritaire par rapport au scrutin proportionnel qui existe chez nos voisins européens, certains de nos voisins. Donc, finalement, on dit, pour une fois, on a une Assemblée plus représentative. Très bien. Sauf que on n'a pas de culture de la coalition, contrairement par exemple à l'Allemagne ou à d'autres pays d'Europe. Ce qui fait qu'en fait, on a beau avoir une assemblée plus représentative et on pourrait s'en réjouir, en réalité, c'est une catastrophe parce que on n'a pas, depuis des années, forgé cette culture du compromis. Chaque parti très faible, très affaibli, joue dans son propre camp, visant la présidentielle, et du coup, craint plus que tout d'être pris au piège d'une coalition où il apparaîtrait comme le jouet, l'instrument, finalement, du bloc central ou du président de la République. Donc voilà pourquoi on est dans cette situation de blocage avec une fragmentation politique. On est passé d'un système bipartite à un système plutôt tripartite, et même plus en fait, vraiment fragmenté. Et donc, en fait, on échoue complètement, en ajoutant quand même une erreur que je juge personnel, du président de la République, qui a des totems, alors qu'il n'est plus du tout en position d'en avoir. Et donc, ça rend la pratique du compromis avec les partis qui pourraient vouloir entrer au gouvernement quasiment impossible.
Juliette Speranza, est-ce que cette culture du compromis, de la coalition, consistant, pour le dire très concrètement, à mettre de l'eau dans son vin et à sortir de ses intérêts partisans pour essayer de penser un intérêt général, alors pas dans la définition rousseauiste, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être absolument nécessaire à la démocratie et peut-être à la nôtre ?
Oui, je suis parfaitement d'accord. Alors, je pense qu'il est important pour les auditeurs, de repréciser les différentes acceptions du terme minorité. Enfin, vous les avez distinguées au départ entre minorité sociale et minorité politique. Effectivement, dans le champ des sciences humaines, on définit les minorités comme étant des catégories qui subissent des traitements inégaux et une forme d'oppression depuis 1945. C'est la définition d'un sociologue qui s'appelait Weavers. Donc quand on parle de minorité sociale, et quand j'ai appelé le livre « Nous sommes tous des minorités », ça concernait donc ce sujet. Mais il y a un lien évident entre minorité politique et minorité sociale. Et effectivement, la nécessité d'écouter les minorités dans les délibérations, à mon avis, c'est le cœur même de la démocratie. Si nous avons besoin d'une démocratie, c'est bien parce qu'il y a des minorités. Camus disait que la démocratie, c'est la protection des minorités. La minorité doit aller absolument en ce sens. Donc, je ne vois pas comment on peut imaginer que les minorités mettraient en péril la démocratie. La démocratie doit être un mouvement, à mon sens, vers les minorités. Par rapport à la situation actuelle, c'est vrai qu'avec le climat politique, on a une demande de plus en plus forte, parce qu'on assiste à une forme de confiscation du pouvoir, même dans un contexte démocratique, pas uniquement en France, où on a une demande de plus en plus forte donc de démocratie directe. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de re-questionner la définition qu'on donne de la démocratie. Alors, il y a plusieurs tentatives de définition. Et puis, on a aujourd'hui donc des critères qui ont été établis, notamment par The Economist. On a eu différentes définitions récemment. Et on a quand même les notions d'égalité et de liberté qui reviennent. Et donc, quand on parle de référendum ou de démocratie directe, il ne faut pas oublier que la souveraineté du peuple n'est pas l'unique critère de démocratie. Et aussi, je pense que Madame Spector parlait donc de la volonté générale. Je pense que c'est très compliqué de vouloir penser la volonté générale, donc que Rousseau pensait comme une volonté d'aller vers le bien commun et donc à distinguer d'une somme d'intérêts particuliers. Si ces intérêts particuliers, je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, si ces intérêts particuliers ne sont pas eux-mêmes quand même pris en considération. Et si ces intérêts particuliers ne se confrontent pas aussi à l'altérité, à la diversité et, encore une fois, au fait que nous soyons une somme de personnes diverses, avec des aspirations diverses, avec des histoires diverses, et que nous devons effectivement délibérer, discuter, nous comprendre. Et c'est vraiment pour ça que, dans mon ouvrage, j'ai essayé je me suis appuyée sur des témoignages de personnes concernées, parce que je pense vraiment que les minorités sont au cœur de la démocratie et qu'on ne peut pas essayer d'élaborer un régime qui serait totalement aveugle aux différentes conditions minoritaires.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors, maintenant que nous avons envisagé ce premier sens, le sens le plus simple de la minorité comme minorité politique, il existe, quand on questionne le lien entre minorité et majorité en démocratie, des situations, et même des situations contemporaines, où la tension est beaucoup plus vive, c'est-à-dire où des expressions de majorité populaire peuvent se retourner très directement contre des minorités, entendues cette fois-ci au sens social. Je reprends la définition que vous proposez dans votre ouvrage « Nous sommes tous des minorités ». Vous dites « La minorité, c'est un groupe social qui subit des oppressions ». Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples qui me paraissent quand même éclairants. En Hongrie, Viktor Orban, qui a été élu à plusieurs reprises, a pris un certain nombre de mesures qui persécutent des minorités, et notamment la communauté LGBTQ+. Au printemps dernier, je n'en cite qu'une seule, parce que ce serait très nombreux, mais au printemps dernier, en mars 2025, il a carrément interdit la marche des fiertés de Budapest, et des parlementaires d'Europe entière y sont allés en faisant de la désobéissance civile. Tout ça après, en 2021, avoir banni la promotion des contenus LGBTQ+, au motif que ça mettait en danger la sexualité, soi-disant, des enfants. Là, on a un exemple où un chef d'État qui se revendique d'une majorité populaire prend des décisions pour persécuter, ou en tout cas pour retirer des droits à des minorités. Céline Spector, est-ce que cette tension-là nous montre quand même qu'il y a un danger à définir la majorité comme le fondement de la démocratie ?
Alors, je voudrais préciser le terme de fondement parce que c'est important. Je dirais que, en fait, la règle de majorité, encore une fois, c'est une procédure de décision qui nous permet de clore. Un collègue, Philippe Urfalino, appelle cela une règle d'arrêt, parce qu'on ne peut pas délibérer indéfiniment, hein, il faut agir politiquement. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est le fondement de la légitimité de la démocratie, qui, elle, a deux fondements, comme le rappelait Juliette Speranza. D'une part, premier fondement, la souveraineté du peuple, et deuxième fondement, les droits fondamentaux qui doivent être constitutionnalisés dans une démocratie moderne, pour protéger à la fois les individus et les minorités. Donc, en fait, on est dans une définition dualiste que beaucoup de collègues ou même de citoyens peuvent contester en disant non, il n'y a que la voix du peuple qui compte. Mmh. Et ce qui se passe en Hongrie, par exemple, nous montre à quel point ce point de vue peut être dangereux. Parce qu'en réalité, effectivement, un leader comme Viktor Orban, qui est élu confortablement, qui peut disposer jusqu'à 2/3 des suffrages au Parlement, c'est-à-dire une majorité absolue très confortable, peut remettre en cause les libertés fondamentales, peut essayer de mettre la main et contrôler les médias, les universités, peut évidemment restreindre l'indépendance du pouvoir judiciaire et donc remettre en cause la séparation même des pouvoirs, qui est le fondement de l'état de droit. Ce qui fait qu'effectivement, sans la deuxième branche, c'est-à-dire sans cette constitutionnalisation des droits fondamentaux et des droits des minorités, sans la protection de la séparation des pouvoirs, la souveraineté du peuple peut évidemment être dangereuse. Et donc je crois que le cas hongrois est très révélateur, parce qu'aujourd'hui on a des forces politiques partout en Europe qui veulent défendre cette vision moniste de la démocratie, qui ont une vision un peu du peuple qui s'auto-affirmerait à travers le leader charismatique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. On a évidemment l'exemple de Hitler qui, après 1933, il a été élu démocratiquement et il a mis à mal toutes les institutions de la République de Weimar en persécutant des minorités comme la minorité juive, en interdisant les partis politiques, en mettant en place une censure, en mettant en place tous les ressorts d'une société totalitaire à partir de la démocratie elle-même et en faisant même éventuellement un référendum plébiscitaire.
Il y a un autre cas que la Hongrie, mais qui peut-être développe la même dialectique, qui est l'exemple américain. Donald Trump est revenu au pouvoir en 2024 au terme d'une campagne où il a martelé la rhétorique selon laquelle il était l'expression, ou en tout cas il entendait être l'expression d'une certaine majorité, critiquant Kamala Harris sur l'argument consistant à dire que elle ne représentait qu'un agrégat de minorités. Et à peine revenu au pouvoir, Donald Trump s'en est pris très très vivement, très violemment d'ailleurs, il faut le dire, aux minorités.
Nous avons mis fin à la tyrannie de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, toutes ces politiques à travers tout le gouvernement fédéral et même dans le secteur privé et dans l'armée. Notre pays ne sera plus jamais woke. Que vous soyez docteur, comptable, avocat ou contrôleur aérien, vous devriez être recruté et avoir des promotions selon vos compétences et non pas votre race ou votre genre. Nous avons retiré le poison de la théorie raciale de nos écoles publiques et j'ai signé un décret qui officialise la politique du gouvernement américain, faisant qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes.
Pierre-Henri Tavoyau, si la première élection de Donald Trump avait comme slogan « Make America Great Again », je crois qu'on peut dire qu'en un sens, cette promesse de ne plus jamais être un pays woke était vraiment l'argument central de la campagne de Donald Trump. Comment vous analysez cela ?
Je voudrais revenir sur le point entre souveraineté et droit, parce que c'est, je pense, le cœur du problème. Et la question qui se pose, c'est vraiment l'articulation, qu'on peut très bien présenter comme une forme d'antinomie entre le peuple souverain et la logique d'État de droit. Quand Baudin, Jean Baudin, définit le terme de souveraineté, il le définit de cette manière en disant que le souverain est absous de la loi, du pouvoir de la loi. Pour une raison très simple, parce que s'il n'est pas absous du pouvoir de la loi, il n'est pas souverain. Alors on pourrait dire, ben voilà, c'est la porte ouverte à toutes ces formes d'arbitraire et de dérives juridiques. Et on voit effectivement que d'un autre côté, ceux qui disent, mais attention, ce souverain doit être limité par un état de droit, c'est-à-dire par des droits qui lui sont supérieurs. Mais dans ce cas-là, Baudin répondrait, ben, si il y a des lois qui sont supérieures au souverain, le souverain n'est pas un souverain. Vous voyez, l'antinomie est vraiment extrêmement profonde. Et face à cette antinomie, il faut bien comprendre le concept de souveraineté, qui ne veut pas dire qu'on sort de loi. Le souverain à tous les droits, sauf de celui de cesser d'être souverain. Évidemment, Baudin, quand il réfléchit à cette notion, pense au monarque absolu. Un monarque absolu n'a pas le droit, donc il est limité en quelque façon, il n'a pas le droit de cesser d'être monarque. Il n'a par exemple pas le droit d'abdiquer, forcément, dans une logique de droit divin, parce qu'il a été choisi par Dieu, il n'a pas le droit de cesser d'être élu, en quelque sorte. Il n'a pas le droit d'aliéner le domaine royal, il n'a pas le droit de modifier les règles de succession. Donc, même dans la monarchie la plus absolue, le souverain est en vérité limité, mais pas limité par quelque chose d'au-dessus, limité par lui-même. Et c'est ce principe qui se retrouve au cœur de la démocratie. C'est pour ça qu'il y a une articulation et une priorisation en démocratie, me semble-t-il, entre souveraineté du peuple et droit. C'est que le droit, en l'occurrence, vient auto-limiter le souverain. C'est-à-dire que le peuple a tous les droits, sauf celui de cesser d'être peuple. Et en l'occurrence, si un peuple opprime une minorité, il cesse d'être un peuple, c'est-à-dire qu'il se dissout lui-même comme peuple, il se suicide comme peuple, et il cesse d'être un peuple. Et de ce point de vue-là, le rôle du contrôle constitutionnel, le rôle fondamental du contrôle constitutionnel, c'est d'être le garant de cette fidélité, en quelque sorte, du peuple à lui-même. On pourrait ajouter que le peuple, une fois qu'il est fidèle à lui-même, il se constitue. Il se constitue comment ? Ben précisément par une constitution, c'est-à-dire qu'il se donne des règles du jeu. Et donc, il doit, effectivement, respecter la règle du jeu qu'il s'est donnée à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de la changer. Il peut changer cette règle du jeu, mais il peut changer cette règle du jeu en respectant la règle du jeu qui permet le changement de cette règle du jeu. Et troisièmement, il doit respecter aussi la parole donnée, c'est-à-dire les traités internationaux, en l'occurrence, qui garantissent la fidélité du peuple à lui-même. Donc vous voyez en quel sens il y a une cohérence très grande dans les régimes démocratiques entre l'idée de souveraineté du peuple, qui est en effet une idée fondamentale, qui est l'idée première de la démocratie, mais et qui engage immédiatement un état de droit comme étant le moyen par lequel le peuple reste fidèle à lui-même. Voilà. Après, on peut très bien, à partir de là, contester l'évolution de l'état de droit et de dire, voilà, une fois que ces éléments sont garantis, ben, il y a peut-être des décisions du Conseil constitutionnel qui excèdent cette exigence pour le peuple d'être fidèle à lui-même. On peut contester telle ou telle évolution du droit en considérant qu'effectivement, ces évolutions du droit excèdent et sont, en quelque sorte, s'exonèrent de ce rôle fondamental. Voilà, ça c'est le débat qui s'ouvre, et le débat tel qu'il est aujourd'hui sur la question de l'état de droit, mais je crois que cette articulation essentielle doit être comprise comme étant effectivement fondatrice de nos régimes politiques.
Juliette Speranza, votre ouvrage, donc Nous sommes tous des minorités, est un livre qui est à la fois, je dirais, un essai, une réflexion théorique, et en même temps presque un récit ou une constellation, une galerie de portraits d'individus qui appartiennent à différentes minorités dont vous racontez les parcours. Et après chaque portrait, vous théorisez un aspect de la minorité. Je lis juste un passage qui peut-être fait écho à la question que nous posons, enfin plus que peut-être, je pense même. « Les minorités, écrivez-vous, portent la puissance normative d'une société. Les noyer sous l'exigence majoritaire, c'est confisquer l'universel. Pour reprendre l'exemple américain, il y a eu en 2024 plusieurs référendums, en même temps que les élections présidentielles, c'est la coutume aux États-Unis, dont deux qui portaient par exemple sur le cas de l'IVG. Et en Dakota du Sud, enfin dont plus que deux, mais en Dakota du Sud et au Nebraska, le résultat de ce référendum, dans un cas comme dans l'autre, ça a été au Nebraska contre la garantie du droit à l'avortement à 51%, et en Dakota du Sud, contre l'établissement du droit à l'avortement à 58,6%. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce risque-là que la majorité confisque l'universel ?
Oui, alors l'expression confisquer l'universel, j'ai dû la lire pour la première fois chez Monique Wittig, qui disait que la classe des hommes s'était appropriée l'universel. Mais effectivement, ça vient aussi du fait que la majorité ne prend pas en considération et ne connaît pas les situations particulières et liées aux conditions minoritaires. Effectivement, veut imposer finalement son point de vue, un ordre social finalement qui lui accorde des privilèges. Donc là, je parle de majorité sociale aussi, où effectivement on a une majorité qui va, à travers aussi la culture, pas uniquement à travers le vote, imposer son point de vue, et donc un point de vue qui est celui plutôt des privilégiés. Alors attention, quand on parle de majorité et de minorité sociale, ce sont aussi des catégories qui sont quand même plutôt fluides, parce que si j'ai justement appelé le livre « Nous sommes tous des minorités », c'est non pas pour relativiser les conditions minoritaires, mais c'est bien pour expliquer que nous sommes déjà tous concernés par le fait minoritaire si on veut viser le bien commun, mais aussi parce que nous sommes tous des minorités en puissance. Si vous faites renverser un jour par une voiture, vous allez vous retrouver en situation de handicap sévère, par exemple, vous allez hop, de fait appartenir à une minorité. Puis on peut être tous concernés par ces situations-là, et c'est l'aveuglement à la condition minoritaire qui fait que la majorité va imposer, effectivement, encore une fois, un point de vue, un certain ordre à une minorité. Et donc, on peut effectivement redire dans le sens de minorité sociale que les femmes sont une minorité. Et voilà, à travers le monde, à travers ces exemples-là, elles le sont de plus en plus.
Vous prenez plusieurs exemples, évidemment. Il y en a un que j'ai trouvé intéressant au début de votre livre sur la question de la grossophobie.
Oui.
Et où vous montrez comment on a construit une image de la personne grosse comme monstrueuse. J'emploie le mot gros exprès. Vous citez le fait que l'IMC, initialement, est une question presque de moyenne statistique, l'indice de masse corporelle, et que les individus qui s'en écartent trop peuvent avoir comme ça cet imaginaire, avec aussi, je dirais, un imaginaire très normatif de quelqu'un qui est trop lié à une certaine représentation de la nourriture, etc. etc. Très concrètement, c'est presque une question infrapolitique que je vous pose, mais comment se crée cette condition-là de minorité et d'oppression qui en découle ?
Alors, les causes d'une oppression, elles sont toujours multifactorielles et liées à la condition minoritaire en particulier. Par exemple, pour les gros, il y a toute une histoire, il y a tout un questionnement. Est-ce que les gros, est-ce que la stigmatisation des gros est liée à la religion, par exemple ? Est-ce qu'elle est liée au travail ? Est-ce qu'elle est liée, effectivement, à une tendance, en particulier au 19e, à se raccrocher de plus en plus à cette idée de norme et à expulser un petit peu de la société, tout ce qui s'éloigne de la norme. Mais aussi, ce qui est intéressant avec l'idée de parler de naissance d'une minorité, notamment pour les gros, donc je me suis appuyée sur le parcours de Gabriel Dédier, c'est le moment où émerge une conscience minoritaire, puisque avant de se penser minorité, les gros, en fait, s'auto-stigmatisaient et s'auto-responsabilisaient de leurs conditions. Ils étaient finalement seuls avec leurs conditions. Et c'est quand on commence à réaliser qu'on est l'objet d'une oppression systémique et que c'est la société, en fait, et la majorité sociale qui nous exclut et qui nous inflige certaines inégalités, que là on commence à se penser minoritaire, qu'on se voit comme étant un individu minorisé, et on comprend qu'on n'est pas né pour être minoritaire, mais qu'en fait c'est la société qui nous rend minorité. J'ai beaucoup dit minorité, pardon. Que en fait on va commencer à devenir une entité qui va produire, justement, qui va essayer de produire des nouvelles normes sociales, qui va essayer de moduler la société pour qu'elle soit plus large, plus à même d'accueillir la diversité. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Et donc ceux qui s'inquiètent de l'émergence, justement, de la parole des grosses, des fat studies, etc., ben en fait ils ne comprennent pas que c'est une chance, c'est une opportunité démocratique, les minorités, de se repenser, de s'élargir et de faire une place à chacun et de s'épargner la violence éventuellement.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors, si Juliette Speranza, dans son ouvrage critique évidemment ce que, enfin évidemment quand on lit votre ouvrage, ce que vous appelez la réaction anti-woke. Il y a un chapitre dans celui de Pierre-Henri Tavoyot, Voulons-nous encore vivre ensemble, consacré au wokisme. Alors c'est un concept, il faudrait presque en faire une autre définition, consacrer une émission entière, pardon, à ce concept. Mais Pierre-Henri Tavoyot, dans ce chapitre, vous développez en somme l'argument selon vous, le wokisme se construit sur la désignation d'un ennemi qui est parfois essentialisé. Est-ce que vous pensez qu'il y a en un sens une sorte de précaution à avoir face aux consciences minoritaires?
Oui, alors je rebondis plutôt sur la question de l'articulation entre majorité et minorité. C'est-à-dire qu'il me semble que la démocratie, avec sa règle majoritaire, qui constitue effectivement une méthode de décision, et pour clore effectivement la délibération, je pense que ce point et cette précision est très importante, est confrontée à deux défis et à deux risques qui sont symétriques et inverses, qu'il faut bien prendre en considération. Premier risque, la tyrannie de la majorité, que Tocqueville décrit parfaitement bien. Tyrannie de la majorité, c'est quand effectivement... alors, tant sur le plan électoral, s'il n'y a pas des lois qui évitent l'infidélité du peuple à lui-même, que sur le plan de l'opinion publique et du conformisme, il y a une très forte possibilité pour que les opinions minoritaires ou les statuts minoritaires soient effectivement opprimés. Donc, premier point de vigilance. Mais on peut tout à fait considérer qu'il y a une tyrannie exactement inverse, qui est la tyrannie des minorités. C'est-à-dire que les minorités s'exonèrent des règles communes pour des raisons qui sont des raisons qui peuvent être légitimes, se sentant effectivement opprimées, et donc s'exonèrent des règles communes pour faire rentrer dans une logique de nouvelles revendications de privilèges qui mettraient d'ailleurs en rupture les logiques d'égalité. Je vous donne un exemple très simple qui m'est arrivé hier en allant en cours au centre de Clignancourt. Exemple de tyrannie des minorités, pour dire que ça peut exister. Ben, on avait un centre qui était bloqué par une dizaine d'étudiants et qui empêchait à peu près 500 étudiants de pouvoir rentrer dans le centre. Voilà, exemple typique d'une tyrannie des minorités. Tyrannie des minorités qui effectivement suppose une forme d'impuissance, parce que évidemment les forces de l'ordre étaient là, mais il était évidemment hors de question de déloger de manière violente et de contraignante cette petite minorité qui lui empêchait des étudiants qui sont après ont pu rentrer et qui étaient manifestement contents d'aller en cours. On a là typiquement un exemple de tyrannie de minorité, c'est-à-dire le blocage rendu illégal par la loi d'une partie. Et donc ce point-là, je pense, doit nous attirer notre attention, si on l'élargit générale, de façon générale, à notre société contemporaine. Et je voudrais vraiment essayer d'être nuancé sur cette question, parce qu'elle est propice effectivement à des lectures très caricaturales. On parle beaucoup de société inclusive dans notre monde contemporain. Et évidemment, l'inclusion a une vertu positive spontanément. Je rappelle simplement que le mot inclusion, quand on l'utilise en chimie notamment, n'est pas un mot forcément très sympathique. Il signifie emprisonnement. Emprisonnement, par exemple, d'un insecte dans l'ombre. Voilà, c'est ça l'inclusion. Alors je dirais qu'il y a la bonne inclusion et la mauvaise inclusion. La bonne inclusion, c'est quand, en effet, on aide un individu différent à s'intégrer au collectif. Et donc là, on a un processus qui est un processus d'accompagnement. C'est comme ça que naît le mot inclusion, à travers notamment la notion de handicap. Faire en sorte, effectivement, mon père était handicapé, donc je vois à peu près ce que ça signifie, cette affaire. Mais attention, on appelle aussi société inclusive un mouvement tout à fait différent, qui consiste à considérer qu'on va forcer la collectivité à s'adapter à la moindre différence. Et là, je dis, il y a un énorme risque, parce que ce faisant, on va en fait faire exploser le collectif. Si on dit à tout le monde venez comme vous êtes dans toutes les dimensions de votre identité, qui est certainement absolument formidable, eh bien effectivement, si tout le monde vient comme on est, ça va être très problématique. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Quand le McDo dit ce slogan, on peut pas rentrer au McDo si on est tout nu. Voilà. Donc venez comme vous êtes, c'est une manière de parler qui veut dire on tolère beaucoup, mais on ne tolère partout. De la même manière, quand on dit la différence est une force, j'entends bien la différence est une force, mais ça dépend quelle différence. Il y a des différences qui ne sont pas des forces, il y a des différences qui mettent en péril le collectif, et il faut être aussi vigilant sur cette dimension indispensable pour nos sociétés contemporaines d'arriver à faire en sorte que le collectif continue d'exister. Voilà. Et ça, ce point, je pense, c'est peut-être un peu méconnu.
Je vois que Juliette Speranza est manifestement en désaccord et on va y venir dans un instant. Mais juste avant, je me demandais en vous écoutant si la question en filigrane qui se pose derrière ce problème n'est pas la question de la définition même du peuple. Et je viens vers vous, Céline Spector, parce que dans votre dernier ouvrage, Nodemos, c'est exactement le sujet que vous explorez à travers... Le point de départ, je ne sais pas si je résume bien la chose ainsi, c'est d'essayer de réfléchir à la manière dont le concept de démocratie s'applique ou non à l'objet politique qu'est l'Europe. Et notamment, vous entamez toute une forme de dialogue avec les critiques qui sont faites à l'Union européenne, aussi bien dans le monde académique que des critiques plus populistes ou plus eurosceptiques. Et vous revenez sur cette tension entre deux définitions possibles du peuple, enfin plusieurs, mais au moins deux schèmes. L'une qui est la définition en gros d'Habermas, une association d'individus libres et égaux et d'égales libertés, et une autre qui est un peuple plus substantiel, peut-être un peu mythifié. Est-ce que vous pensez que c'est aussi cette tension-là qui se dessine derrière la question que nous abordons ?
Alors, c'est une question complexe que vous me posez. Je voudrais juste dire un mot d'abord sur la question du peuple. Et c'est la grande question qu'il faut toujours approfondir des rapports entre peuple et nation. Vous rappeliez à juste titre la définition de Jürgen Habermas, donc le philosophe allemand, qui, contre Carl Schmitt, qui était notamment un des idéologues et juriste au service du Troisième Reich, nous dit non, le peuple, c'est pas l'auto-affirmation d'une communauté homogène, c'est tout simplement une association d'individus libres et égaux sur la base d'un contrat, ça c'est très rousseauiste, et unis par le médium abstrait du droit qui crée une solidarité civique entre étrangers. Voilà. Donc le peuple, il ne faut pas le mythifier, il ne faut pas le substantialiser. Il y a des procédures qui lui permettent de se définir et notamment la délibération en fait partie. Bon. Alors, pour revenir après, à partir de là, à la question des minorités, je voudrais introduire un concept qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui de multiculturalisme, qui s'est d'abord développé notamment au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Angleterre, et puis qui est arrivé en France avec les travaux de collègues comme Sophie Guérard de la Tour. Est-ce qu'on veut une société multiculturelle ? Voilà. C'est en fait la vraie question, c'est-à-dire effectivement il y a des minorités, et en particulier des minorités culturelles, certains diraient même ethniques, il y a des minorités sociales, des minorités politiques, quel est le statut qu'on leur donne dans notre République et comment est-ce qu'on institutionnalise leurs conflits, leurs divergences ? Voilà, si on ne veut pas appliquer un peu bêtement et mécaniquement cette fameuse règle de majorité qui crée de la tyrannie parfois. Alors là je crois qu'il faut être attentif au fait qu'il y a un risque réel, et je rejoins Pierre-Henri Tavoyeux sur ce point, il y a un risque réel, la tyrannie des minorités, c'est un risque. L'identity politics, comme disent les Américains, il y a un risque inhérent qui est effectivement qu'on n'arrive plus à trouver de point où l'intérêt commun se forme. Et on arrive à une société fragmentée, polarisée, qui ne trouve plus, et c'est le risque qui est renforcé et démultiplié par les réseaux sociaux, qui ne trouve plus de lieu pour délibérer et s'entendre, même sur le sens des termes et pour créer ensemble du politique, du commun, des lois. Et puis, il y a un risque symétrique qui est celui, effectivement, où les minorités se sentent opprimées, se sentent, disons, opprimées parce que l'espace public n'est pas neutre, parce qu'il a été forgé par une longue histoire, par une longue culture, qu'en France, par exemple, on a de fait un espace public qui a été marqué par l'histoire catholique. On a des jours fériés qui sont, pour la plupart, voilà. Donc, oui, les autres minorités religieuses, par exemple, peuvent se sentir flouées. Elles n'ont pas forcément le droit d'appliquer de la même manière. Et donc, on a trouvé, par exemple, au Canada, le système des accommodements raisonnables. C'est-à-dire, pour certaines choses, ça peut être les jours fériés, ça peut être d'autres choses. Eh bien, on essaye d'adapter le droit commun dans une certaine mesure. On se dit, il y a du commun quand même, mais sur certains points, on peut considérer quand même qu'on fait un pas en direction des minorités pour qu'elles se sentent reconnu. Et c'est le thème que le philosophe Charles Taylor a beaucoup développé, c'est celui de la reconnaissance. On n'est pas seulement dans des sociétés d'égale dignité, d'égale liberté, il faut reconnaître aussi l'idéal d'authenticité qui est porté par des identités particulières, il faut leur accorder une forme de reconnaissance au sein de l'espace public.
Juliette Speranza, nous revenons à ce désaccord et permettez-moi en parenthèse de souligner que dans votre livre, il y a un concept que vous proposez peut-être qui fait écho aussi à cette... à cette question de la reconnaissance et de ce qui peut en sortir, qui est le concept de sociopoïèse. Mmh. Pour le dire très concrètement, souvent quand ceux qui s'opposent à la reconnaissance des minorités ou qui ont des réticences face à cela, disent qu'il y a le risque d'instaurer une forme de morale. Et vous dites le contraire, vous dites non, parce que vous faites une distinction entre morale et éthique, et vous dites que l'éthique, c'est la manière dont la morale peut être rendue plus vivante, peut être souple, etc. Une sorte de vitalité de la morale, et que l'écoute qui peut être accordée et la reconnaissance qui peut être accordée aux conditions minoritaires donne lieu à une sorte de créativité de la société à venir. Est-ce que c'est ça qui est aussi en jeu ?
Oui, bah, je pense que les minorités, effectivement, produisent le corps social, produisent les normes du corps social et produisent la société. Et alors, moi, je me suis permis, dans mon livre, de faire une distinction entre minorité et communauté pour justement essayer de repenser ce débat entre parole minoritaire et communautarisme. Parce que je trouve qu'il y a une confusion dans ce qu'on entend dans l'espace public et dans les médias entre la prise de parole d'une minorité, donc qui va être vécue comme une espèce de compulsion identitaire, et du communautarisme. Donc j'ai voulu distinguer les deux. Donc je me suis appuyée sur la définition de minorité que j'ai donnée tout à l'heure, et je l'ai distinguée donc d'une communauté, qui est donc plutôt un ensemble humain qui existe par des valeurs ou une histoire. Enfin, il y a plusieurs types de définitions, mais des valeurs, une histoire commune, un ancrage souvent historique. Mais j'ai aussi distingué les communautés originaires des communautés réactionnelles. Mmh. Et les communautés réactionnelles, ce sont des communautés qui vont justement s'opposer ou entrer en conflit avec le corps social parce qu'elles ne se sentent pas justement reconnues. Je crois qu'il y a cet impératif de reconnaissance qu'il faut quand même qu'on pense. Alors qu'une minorité, pour moi, au contraire, quand émerge une minorité, et d'ailleurs tous les témoignages que j'ai recueillis dans le livre le montrent, et puis voilà, moi, toutes les recherches que j'ai faites sur ce sujet-là me font aller en ce sens. Quand émerge une minorité, la parole minoritaire n'a pas d'autre but que de se fondre, de faire, genre j'ai appelé ça l'accrétion sociale, mais de se fondre dans le corps social et de faire société. Et on a fait une présentation du livre avec une des témoins qui s'appelle Mariko, qui est une femme transgenre, une femme politique transgenre, et qui a dit, moi, mon objectif, c'est de devenir invisible. Bon, bah voilà, tout est dit. Pour moi, c'est pas des revendications identitaires que de se dire minoritaire, c'est au contraire de vouloir faire société. Et après, effectivement, on peut observer des formes de communautarisme réactionnel, mais qui, pour moi, sont extrêmement marginales, par rapport à cette parole minoritaire qu'on peut observer. Je reviens sur ce qui a été dit aussi sur la notion d'inclusion. Je voulais citer Charles Gardou, qui dit qu'une société... C'est un anthropologue, Charles Gardou, qui est... dans mon champ de recherche très connu autour du handicap, qui dit qu'une société inclusive, c'est un pléonasme. Et quand on dit que... essayer de faire rentrer artificiellement une catégorie dans la société, ce serait une mauvaise inclusion, je pense que c'est mal penser la société.
Merci beaucoup à vous trois pour cette émission passionnante. C'est toujours frustrant parce que la discussion était très vive. On a soulevé plein de points. Merci beaucoup aussi à Aline Biette qui a préparé l'émission. Et c'était aussi difficile de préparer sur ce sujet délicat. Et merci beaucoup à Souad Boukorsa qui l'a réalisé et mise en œuvre. L'émission est à retrouver sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.